Belle discussion, comme c'est toujours le cas avec Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival d'été de Québec et de Phono. C'était une petite entrée pour le show du Point de Max d'aujourd'hui, parce qu'évidemment que le sujet d'actualité qui revient beaucoup, ben, c'est le budget déposé hier par Éric Girard. Dernier budget, possiblement, de la coalition Avenir Québec, du moins assurément le dernier sous la direction de François Legault. Et pour en parler, il est président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Frédéric Boisvert, qui est au bout du fil. Salut Frédéric.
Salut mon cher, ça va bien?
Yes, ça va bien toi?
Oui.
Tes premières impressions, là, grossièrement, sur ce budget-là présenté hier par Éric Girard, ministre des Finances?
Bien, c'est sûr qu'ils font un budget dans le cadre d'une course sur le leadership. Fait que c'est un peu, on pourrait dire, un budget de régence, peut-être. On garde le cap sur les orientations qu'on a décidées ça fait longtemps, mais en même temps, on se garde des portes ouvertes, on se garde une marge de manœuvre pour la suite, pour le futur ou la future première ministre du Québec. Ceci étant dit, si on y va plus dans le détail un peu du budget, ce que je trouve intéressant, qui a peut-être été moins noté, là, puis c'est sûr que ça touche pas tout le monde, on s'entend, là, mais pour ceux et celles qui se partent une business, là, puis que ben, la première tranche de 500 000 de revenus imposables, là, dès cette année, ça passe de 11,5 à 3%, 3,2, ce qui est quand même... Ça donne beaucoup de souffle à des startups, à des entreprises qui commencent. Ça, franchement, ça, c'est quand même, je dois le noter, c'est bien. Ça, c'est quand même bien. C'est sûr aussi qu'on a vu des choses par rapport à un fonds, par exemple, créé pour le maintien des sièges sociaux. Bon, c'est sûr que 2 milliards, ça part vite, là, quand on parle de grandes entreprises. Mais bref, c'est une velléité, c'est une volonté, c'est une indication qui le montre. Puis surtout, il y a aussi là-dedans, là, si tu déclines légèrement, toute la perspective du transfert d'entreprise, des entreprises clés qui pourraient être achetées par des étrangers. Fait que ça, c'est un fonds dans lequel ils peuvent piger. Pour le reste, je n'irai pas dans les détails du 1,7 milliard sur 5 ans pour les entreprises, toutes sortes de petites mesures, mais à la fin de la journée, ça n'aura pas grand impact, ce 1,7 là, parce que c'est tellement tiolé qu'il y a des programmes et ces programmes-là ont leurs restrictions, leur cadre de travail. Bref, tu sais, c'est quand même bien. Moi, ce que je note, par exemple, étant également pas juste le PDG de la Chambre de Québec, mais également un payeur de taxes, je trouve ça bien quand même qu'ils aient gardé le cap sur la réduction du déficit. Le déficit est réduit maintenant. Là, si tu enlèves si tu ajoutes le paiement fait au Fonds des générations, on passe de 11 à 7 milliards de déficit, puis l'année prochaine, ils gardent le cap pour un 6. C'est encore beaucoup comme déficit, certains vont dire, mais en même temps, ça représente 1,8 à peu près des déficits opérationnels là, annuels du gouvernement. Mais c'est sûr que, tu sais, au Québec, quand tu regardes ça, là, tu regardes le budget, tu regardes les colonnes, Max, c'est sûr que au Québec, on n'a pas un problème de revenus en termes de revenus gouvernementaux. On a un problème de dépenses. Fait que c'est sûr que le gouvernement a fait des efforts là, pour réduire le déficit, puis ça se voit, là. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin là-dedans, là, puis s'interroger à savoir où est-ce qu'on a de la valeur ajoutée, où est-ce qu'on n'en a pas. Puis je pense que ça fait partie des choses à regarder, là.
T'es quand même un des intervenants les plus, je vais dire, positifs par rapport aux impressions sur ce budget Girard-là. Est-ce que c'est par rapport au fait qu'on connaît toute la situation, là? C'est un gouvernement en fin de vie, change de chef, on va changer de premier ministre. C'est-tu que tu partais avec pas beaucoup d'attentes, puis que tu te dis, bon, avec les attentes que j'avais dans la situation, c'est quand même un budget où on ne fait pas si mal?
Ben, je voulais quand même dire qu'est-ce qu'il y avait de pas pire dans le budget. Là. Maintenant, je vous ai parlé aussi de la réduction du déficit. Ça répète plus que ça, mais on garde le cap. Surtout dans un cadre de fin de mandat électoral, on le sait, le gouvernement n'a pas tendance à réduire les dépenses en fin de cycle électoral. Ils sont toujours en train de dépenser plus. Fait que ça, je dois quand même le souligner. Là. C'est ça. Ça serait facile de s'inventer toutes sortes de raisons pour ne pas réduire le déficit. Bon, ceci étant, après ça, moi, j'y vais dans la nuance. C'est-à-dire que là, je t'ai dit ce qui était possible, ce que je trouve quand même qu'on a raté peut-être une occasion, une opportunité, c'est toute la réduction du fardeau fiscal des entreprises overall. Là. Pas juste ceux-là qui ont des revenus de moins de 500 000, là. C'est ceux qui font rouler le Québec, qui créent de la richesse, parce que, tu sais, on va se le dire, là, le poids du gouvernement dans l'économie, c'est majeur, c'est trop important au Québec, c'est trop important au Canada, mais quand même, il y a aussi tous ces créateurs de richesse-là, ces chefs d'entreprise-là, qui, eux, contribuent beaucoup par le biais des taxes sur le salaire, tout ça, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de ponctions fiscales faites auprès des entreprises. On aurait aimé, là, je pense, toute la communauté des chambres de commerce, puis tout l'environnement économique. On se serait attendu à une baisse du fardeau fiscal. On l'a pas. On l'a pas pour plein de raisons, parce que le gouvernement peut, en fait, ce qu'il prétend, ce qu'il pense, c'est qu'ils peuvent pas se le permettre. Puis, moi, je suis dans les souliers d'Éric Girard. Il a en partie raison, parce qu'évidemment, quand tu fais des baisses au niveau du fardeau fiscal, ça pourrait être une baisse de 2 milliards, 3 milliards, peu importe, c'est de l'argent qui, entre guillemets, sort des états financiers, puis s'en va vers des entreprises, puis qu'après ça, ben ça vient sous forme de recettes. De recettes au niveau de la TP, de la TVQ, des impôts sur les sociétés, tout ça, parce que peut-être que tu réduis l'impôt sur les sociétés, mais évidemment, si leur productivité augmente et leur chiffre d'affaires augmente, ben évidemment, au final, c'est pas une perte, c'est un plus. On a plus de recettes gouvernementales, puis on a en plus libéré la capacité productive des entreprises. Fait que je pense que de ce côté-là, il va falloir qu'au Québec, qu'on se fasse confiance, puis qu'on fasse confiance aux entrepreneurs, parce que les autres, ils attendent juste ça, là. Tu sais, puis on s'en est parlé beaucoup avec Yannick, avec toi, Max, avec évidemment avec Jeff, tu sais. Au Québec, là, c'est pas facile de faire des affaires, notamment parce qu'il y a une paperasserie incroyable. Puis moi, j'aurais aimé ça, tu sais. Il y a eu le P11 dernièrement qui a noté quand même une baisse, en tout cas une orientation vers une baisse de la paperasse. Mais tu sais, on dépense pour se conformer. On s'est taxé beaucoup au niveau des entreprises, au niveau des profits. Fait que, bref, est-ce que là, il n'y a pas une réflexion à avoir sur comment qu'on va libérer la capacité productive des entreprises? Parce que dans un contexte où on a une guerre tarifaire, dans un contexte où il y a de l'incertitude, potentielle récession, on voit ce qui se passe Iran, tout ça, l'impact sur la pompe. À un moment donné, c'est parce que tout finit par s'additionner et ça devient une charge importante déjà d'entreprise. Fait que je sais pas si je te cadre ça comme il faut, mais bref, je pense que il va falloir qu'on se fasse confiance, qu'on ait du courage. Ce qu'on n'a pas eu dans ce budget-là au niveau de la réduction du fardeau fiscal. Puis je comprends encore une fois leur réflexion, comment ils pensent, mais je pense qu'il y a plein de gouvernements à travers le monde qui ont fait l'expérimentation de ça et que finalement ça s'avère un pari qui est payant.
On parle beaucoup, là, j'ai l'impression, pour les entreprises, tout ça. Maintenant, pour la région de Québec, puis je comprends que ouais. C'est lié avec ton rôle ouais. de président, chef de la direction oui. là, de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Bruno Marchand parle d'un budget sobre, mais un budget qui repousse à plus tard des problèmes qu'on devrait régler maintenant. Ouais. Est-ce que tu le vois un peu dans ce sens-là, toi aussi?
Oui. Ben, tu sais, je dois quand même souligner quand même que moi, côté photonique, tu sais, je vous en parle de temps à autre, mais tu sais, la photonique à Québec, on comprend très peu l'impact de la photonique à Québec. On a une spécialisation qui est très, ça fait très, très longtemps qu'on a, depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis qu'on a raffiné. Puis là, maintenant, on a un projet qui a été confirmé via une annonce avant le budget. C'est que l'INO devient Luquia. Donc, c'est une fusion qui est née de l'UNO puis du CRIM qui est situé à Montréal. Puis ça va devenir un des plus grands laboratoires en photonique puis en IA au pays. Puis ça, il va y avoir également une unité de mix de recherche en photonique quantique. Ça, il y a 3 millions de mis de côté là-dessus avec l'INRS. Bref, ça, c'est une belle pépite du budget que je vois pour nous dans la région, là, qui va avoir un impact. Parce que ça, là, ça va être important parce qu'on se prépare pour toutes les dépenses en défense. Puis il y aura beaucoup de photonique là-dedans au niveau de la dépense. C'est la photonique, c'est un rayon laser, là. C'est utilisé dans la médecine, c'est utilisé dans la défense, c'est utilisé dans plein d'applications, mais tu sais, pour nous autres, la défense, c'est majeur. Tu sais, l'INO, on sait pas, là, mais il collabore avec SpaceX, il collabore avec plein de grandes entreprises, même au niveau aérospatial, la NASA et autres. Bref, c'est une belle pépite du budget. Ce que je vois également, c'est des paiements anticipés sur le tramway. Ça, c'est pas, il y a rien de nouveau là-dedans. Là, on décaisse les sommes prévues. Mais tu sais, pour le reste, c'est certain que, tu sais, là, Québec, c'est une chose, mais tu sais, je fais plutôt toutes les villes environnantes parce qu'il n'y a pas juste Québec, là, il y a Lévis, il y a tout ça. C'est certain qu'on a des défis. Tu sais, les municipalités ont des défis auxquels je ne vois pas de signal dans le budget, notamment au chapitre des infrastructures. Les infrastructures, là, ça coûte extrêmement cher au niveau municipal. Puis là, pas de n'importe quelle infra, là, c'est pas des centres multifonctionnels. Je parle pas de ça, moi. Là. Je parle du pain puis du beurre d'une municipalité, les aqueducs, les systèmes de traitement des eaux. Tu sais, il y en a qui sont arrivés à terme, mais qui se font patcher. Donc, bref, il y aura beaucoup de d'investissements dans ce sens-là au cours des prochaines années. Puis malheureusement, ce qu'on comprend pas encore tout à fait, c'est que les villes, dans la façon dont ils sont gérés actuellement, ils n'ont pas toute la capacité fiscale de faire, d'entreprendre ces grands projets d'infra-là dans leur municipalité. Ça, ça va avoir un impact sur pas mal de monde, puis on commence à peine à le réaliser. Fait que ça, là-dessus, ça aurait été le fun de voir. Puis là, moi, c'est ce que j'incite. Moi, quand j'étais au fédéral à l'époque, on avait un programme dans le cadre de Chantier Canada. C'était un programme qui était conjoint, tiers-tiers-tiers, où le municipal, le provincial, le fédéral investissaient au tiers pour des projets tels que, à l'époque, on appelait ça préco, là, c'était pour les aqueducs, tout ça. Puis ça a été, puis évidemment, ça a été une première phase. Il y en aurait tellement plus à faire que ça. Mais des programmes de genre s'en prendraient dans l'avenir, parce que ça repose pas juste sur Québec, ça repose pas juste sur le fédéral, mais quand on rentre dans des programmes à coût partagé comme ça, pour l'avoir déjà vécu, je tiens à dire que ça c'est intéressant, c'est un bon levier.
Frédéric Boisvert, est-ce que j'ai compris que tu étais de la mission du maire Bruno Marchand en Alberta en ce moment?
Oui, en fait, je voulais vraiment voir, parce que moi, si je te cacherais pas au niveau du tramway, je le vois arriver, puis évidemment, c'est pas moi qui vais re-questionner la nécessité de faire ça, parce qu'on a un boom démographique à Québec, on va continuer à l'avoir, on va atteindre le chiffre d'1 million au niveau de la RMR en 2036. Fait que c'est sûr que si on continue au rythme qu'on va là, en termes de croissance, mais qu'on n'a pas l'épine dorsale pour s'assurer qu'on puisse accommoder ces nouveaux arrivants-là, ces gens qui viennent de partout, que ce soit du Saguenay, du bas du fleuve ou de l'international, peu importe, ben on va avoir un problème. Puis ce que moi, ça m'a permis de voir, c'est qu'il y a des villes, là, on a vu Edmonton, on est arrivé à Calgary, là, mais à Edmonton, on a vu une ville qui a vu loin, ça fait très longtemps. Puis là, c'est ce que j'ai réalisé, moi, c'est l'importance de la vision, je dois t'avouer. Je l'ai vraiment vu là, c'est que dès le début des années 70, ils se sont imaginés comme une ville en croissance. Puis, évidemment, venait avec ça des investissements en transport public qu'ils ont fait à l'époque. Puis, les premiers investissements qu'ils ont faits, ça date de 1978 pour leur fameux métro léger, train léger, là, comme un peu, c'est un tramway finalement qu'ils ont, là. Mais il y a aussi évidemment une portion souterraine à ça. On l'a visité. Ils ont des projets d'expansion également parce que la population croît là-bas. Tu sens là, au niveau de la population puis au niveau des entreprises, tout le monde aime le produit. C'est sûr que on était là pour, en tout cas moi j'étais là pour apprendre des leçons apprises, pour bien comprendre comment ça se passe du côté des commerçants. Puis je vais vous avouer, ça n'a pas été un long fleuve tranquille là. T'sais, quiconque va dire que le projet de tramway à Québec va être un long fleuve tranquille là, je m'interroge sa santé mentale. Là. C'est pas, ça va pas être facile, ça va être complexe, ça va impacter des chiffres d'affaires de commerçants le long du tracé, bien évidemment. J'imagine à peine la problématique au niveau des circulations, au niveau des artères qui vont être fermées. Mais toutefois, quand on regarde ici à Edmonton, on est à Edmonton puis qu'on a vu les résultats. Les gens disent on reviendrait pas en arrière, mais en même temps ça a été quelque chose, ça a été pénible, on y est arrivé, mais c'est la force d'une vision, c'est ça qui rallie les gens au final, c'est le produit final, où est-ce qu'on va atterrir, et c'est ça qu'à Québec je pense que on commence à la voir clairement, mais tu sais il va falloir qu'on l'affirme encore davantage parce que si les gens voient juste des inconvénients mais voient pas au final l'impact que ça leur a, ben c'est sûr que on peut perdre un peu d'appui là-dedans. Mais bref, pour Edmonton, un projet extrêmement structurant qui a eu de l'impact puis qui leur permet de connaître une croissance parce qu'on le sait, Edmonton, c'est le gateway pour le Nord où les gens vont travailler dans les fers bitumineux. Puis, Edmonton, il n'y a pas de guerre, là, comme on voit à Québec, sur la voiture versus le transport public. C'est que un est complémentaire de l'autre. C'est un choix que tu fais. Mais pour ceux qui veulent faire un choix de ne pas avoir de voiture, ben grand bien leur fasse, prenez ça. Ceux qui veulent garder leur voiture, ben qui la garde, c'est pas plus pire que ça, mais au moins le consommateur, le citoyen a des options.
Fred, la nouvelle du soleil hier, justement, l'effet que le projet de tramway était toujours comme en phase de planification par Québec, ça t'as-tu ça t'as-tu déclenché une émotion ou comme c'était peu ça le plan déjà, ça a pas fait grand chose?
Ben moi, écoute, j'ai des briefings réguliers avec la CAQ, parce qu'on va se le dire, là, c'est le maître d'œuvre dans ce dossier-là, c'est pas la ville. Je sais pas si les gens ont pas compris ça, là, mais le maître d'œuvre, c'est la Caisse de dépôt infra, le CPDQ infra. Fait que c'est facile de perdre ça de vue parce qu'on pense des fois la ville a plus un rôle de expropriation, de communication, tout ça, tandis que CPDQ Infra, lui, a vraiment le volant en ce qui a trait, puis la conduite du projet avec le consortium qui a remporté la mise. Fait que moi, là, quand j'ai des briefings, il y a pas de retard, là. La cédule demeure ce qu'elle est, là. Ça, c'est, il y a pas de, fait qu'on va connaître, tu sais, il y a plein d'étapes dans ce projet-là, là. Je les ai pas ce matin. Je pense pas qu'on allait travailler, qu'on allait aller dans les détails de ça. Mais moi, les derniers briefings que j'ai eus, là, il y a pas de retard. Donc, moi, ça suit ça. Puis je vais t'avouer que le staff de la CPDQ Infra, ça paraît que se sont mis la main sur des projets avant parce qu'ils sont aguerris, là. C'est une équipe qui est quand même très solide. Puis je pense qu'ils ont appris de leur erreur par rapport au REM, tout ça. Fait qu'on est chanceux de passer après tout ce monde-là parce qu'on a le fruit maintenant de toutes les leçons apprises. Puis ça, c'est quand même précieux.
Frédéric Boisvert, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, en direct de l'Alberta. Je te souhaite une bonne fin de mission.
Merci, les amis.
Puis à la prochaine.
Bye-bye.
Salut. Au retour, un petit tour des nouvelles qui m'ont marqué dans les dernières heures. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard, 10h37.